Mes amis, Monsieur Lacaze, 2. En rentrant le soir, je lavais à l'eau froide dans ma cuvette mes chaussettes et mon mouchoir. La nuit, je m'éveillais tous les quarts d'heure, chaque fois avant la fin d'un rêve. Alors, je pensais à l'industriel. Dans mon imagination, il avait une fille que j'épousais. Il mourait en me léguant sa fortune. Au matin, quand mes yeux s'ouvrirent, je compris que mon imagination m'avait mené trop loin. Monsieur Lacaze devait être un homme comme tous les autres. En faisant ma toilette, je résumais les événements de ma vie qui étaient susceptibles de l'intéresser pour les lui dire. Puis, je fis choix. On a beau être malheureux, pauvre, seul, il y a toujours des choses qu'il vaut mieux taire. J'ai 2 complets, celui que je mets tous les jours et un autre qui a l'avantage d'être noir. J'hésitais à revêtir ce dernier. Je ne savais pas si M. Lacaze aimait mieux que j'eusse l'air pauvre ou bien que, pour lui, je me fusse endimanché. Je me décidai à revêtir le complet noir. Je brossai les taches après avoir craché sur la brosse. Depuis longtemps, je brosse ces taches. Le soir, elles reparaissent toujours. Je me lavais les bras jusqu'au coude pour qu'on ne remarquât pas que mon corps était sale. Je mouillais mes cheveux pour que ma raie tînt. Je mis une chemise propre, le seul col dur que je possède, et qui n'avait été porté que 2 fois, et la cravate la moins froissée par les nœuds. Je sortis. Je ne me couvris pas tout de suite, afin que mes cheveux eussent le temps de sécher. J'ai remarqué qu'il n'y a rien de plus laid que des cheveux qui ont séché sous un chapeau. J'emportai mon portefeuille avec tous mes papiers. La carte de M. Lacaze se trouvait dans une poche vide, afin de n'avoir pas à la chercher en cas de besoin. Il était 8 heures. Rarement, je descendais si tôt. L'escalier n'avait pas encore été balayé. Il y avait un journal à cheval sur le bouton de la porte du docteur. Ce docteur est un brave homme, comme tous les gens instruits. À 9 heures, je me promenais déjà dans le quartier des Champs-Élysées. À voir les maisons, les arbres émerger d'un brouillard jaune, on eût dit une photographie qui n'a pas été fixée. Pourtant, on sentait que le soleil percerait à midi. Je demandai à un agent où se trouvait la rue Lord Byron. Le bras tendu sous sa pèlerine, il me la montra. Je l'écoutais en me demandant ce qu'il penserait de moi si, tout à l'heure, je prenais une autre direction. La maison de la rue Lord Byron, qui porte le numéro 6, est riche. Cela se remarque tout de suite. Des vitraux servent de carreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée. Les volets de fer se plient comme un paravent. Au-dessus de la porte cochère, 2 masques sont sculptés dans la pierre. Ceux de la tragédie et de la comédie, sans doute. 2 petits trottoirs bordent le couloir pour qu'on puisse se mettre à l'abri quand une automobile sort. Un concierge, bien habillé, balayait le trottoir déjà propre. Il me remarqua. Cela m'ennuya, car tout à l'heure, quand je reviendrai, il me reconnaîtrait. Je traversai la rue, afin d'avoir une vue d'ensemble de la maison, lorsque, craignant subitement que M. Lacaze ne m'aperçût, je pressai le pas avec l'air distrait des gens qui se savent observer. Bientôt, je me trouvai dans une avenue déserte et arrosée, comme un jardin le matin. Personne ne secouait de torchons aux fenêtres. Les automobiles tournaient prudemment au coin des rues. Les domestiques mettaient un veston et un chapeau pour sortir. Partout, les mêmes portes cochères de bois noir et luisant. De temps en temps, un tramway vide sautait sur les rails bosselés. Les réverbères étaient plus grands que ceux de mon quartier. Il allait être 10 heures. Je revins sur mes pas, en changeant de trottoir pour voir du nouveau. J'arrivais devant le 6 de la rue Lord Byron quelques minutes en avance. je m'arrange toujours pour arriver trop tôt. De cette façon, j'ai le temps de me préparer. Après avoir passé 3 ou 4 fois devant la porte, j'entrais. La carte de visite de M. Lacaze était dans ma poche. Je la touchais rarement, afin de ne pas la salir. C'est si laid, des empreintes de doigts sur quelque chose de blanc. Des gouttes froides de sueur tombaient de mes aisselles le long de mes côtes. Au travers d'une porte vitrée, je vis un escalier sous un tapis. Le concierge, immobile au milieu de la cour, regardait une fenêtre. Je l'appelai, il se retourna. « Monsieur Lacaze, » demandai-je. Et pour prouver que je connaissais Monsieur Lacaze, je tendis la carte de visite. J'étais fier, car certainement le riche industriel ne donnait pas sa carte à n'importe qui. Le concierge prit la carte. Une calotte raide le coiffait. Un plumeau pendait au cordon de son tablier. « C'est vous le monsieur qui devait venir à 10 heures ?»« Oui, monsieur. »« Prenez l'escalier de service au fond de la cour. C'est au 2e. » Comme il ne me rendait pas la carte, je la lui demandais, car j'y tenais. « Tenez, tenez, la voilà. » En traversant la cour, je sentis qu'il me suivait des yeux. Cela me gêna. Je n'aime pas qu'on me regarde le dos quand je marche. Cela me fait marcher mal. Je pense à mes mains, à mes talons et à mon épaule trop haute. Dans l'escalier de service, je respirais mieux. Une ampoule éclairait chaque étage, et parce qu'il faisait jour, je vis les fils à l'intérieur de ces ampoules. Même dans cet escalier, il y avait des sonnettes électriques. En gravissant les marches, je songeais au concierge. Je ne pouvais croire que M. Lacaze lui avait parlé de moi. Ce concierge, certainement par jalousie, m'avait fait monter par l'escalier de service. Il avait vu, avec son œil de domestique, que j'étais pauvre. Si l'œil des domestiques est si exercé, cela tient au fait qu'ils haïssent leur métier. Ils ont renoncé à leur indépendance vis-à-vis des riches seulement. L'instinct de la liberté qui, malgré tout, existe au fond de leur cœur, leur permet de discerner tout de suite un riche d'un pauvre, un maître d'un homme comme eux. Au 2e, je sonnais. Une bonne m'ouvrit. Elle était sans doute prévenue, car, avant que j'eusse le temps de parler, elle me pria d'entrer avec un air protecteur. Je la suivis. Nous traversâmes la cuisine, qui sentait déjà la friture, puis un long corridor. Subitement, je me trouvais dans une antichambre. « Attendez, je vais prévenir monsieur. » Alors, j'entendis la voix de l'industriel au travers de la cloison. Il disait « Faites-le entrer, ce pauvre homme !» Je fus vexé. On n'aime pas que les domestiques sachent ce que leur maître pense de vous. En outre, M. Lacaze n'ignorait certainement pas que je l'entendais. Mais, comme je ne connais pas les habitudes des gens riches, je ne voulus pas me formaliser. Il se pouvait que M. Lacaze eût à s'occuper de choses autrement importantes que de ces questions d'amour-propre. La bonne reparut. En me conduisant vers le bureau, elle murmura « N'ayez pas peur, monsieur est si bon. » J'étais rouge, mes mains suaient en dedans. Abêti par l'émotion, j'allais vers la porte ouverte et pleine de la lumière du jour, comme un morceau de bois vers le centre d'un tourbillon. Je ne pensais même pas réagir. Je me disais « Qu'on fasse de moi ce que l'on voudra. » J'entrai. La porte se referma derrière moi, sans bruit. 2 fenêtres descendaient jusqu'au parquet. Du milieu de la pièce, je vis la rue. J'étais ébloui. Le seul pouvoir qui me restait était d'accentuer ma gaucherie. Le bord de mes oreilles me brûlait, comme quand on a eu froid. Ma bouche était sèche, à force d'avoir respiré sans faire de salive. Les yeux grands ouverts, les cils en l'air, je regardais M. Lacaze. C'était un autre homme. Il n'avait ni chapeau ni pardessus. Il était en noir. Une raie blanche séparait ses cheveux en deux parts égales. Ses oreilles plates bougeaient parfois de bas en haut, très vite. Dans la gare, il ne m'avait pas tant imposé. J'ai l'habitude de voir des gens riches dehors. Mais ici, debout, touchant du bout des doigts son bureau, avec sa redingote dont les boutons étaient recouverts d'étoffe, avec sa chemise empesée qui ne le gênait pas, il m'écrasait de sa supériorité.
« Asseyez-vous, mon brave !»
Il m'avait dit cela tout de suite, mais j'étais si ému qu'il me semblait que je me tenais debout depuis longtemps. Il regarda une montre en or dont les aiguilles élancées donnaient autant d'importance aux minutes qu'aux heures.
« Allons, asseyez-vous !»
J'avais compris, mais ma timidité m'empêchait d'obéir. Les fauteuils étaient trop bas. Assis, j'aurais paru son égal, ce qui m'eût gêné. Et dans le fond de mon âme, je sentais qu'en ne m'asseyant pas, il était flatté.
« Asseyez-vous donc, n'ayez pas peur !»
Je dus faire plusieurs pas pour atteindre le fauteuil qu'il m'avait désigné avec toute la main. Je m'assis, et mon corps s'enfonça plus encore que je ne m'y attendais. Mes genoux étaient trop hauts. Mes coudes glissaient sur les accoudoirs arrondis. Je fis des efforts pour ne pas appuyer ma nuque contre le dossier.
C'eût été trop familier.
Mais mon cou se fatiguait, comme quand on lève la tête au lit. Mon chapeau sur mes genoux sentait les cheveux mouillés. Mes yeux rasaient le niveau de la table comme ceux d'un géomètre. Monsieur Lacaze manipulait un coupe-papier, un bout après l'autre. Je voyais son poignet jusqu'au coude dans la manchette. Sous le bureau, ses jambes étaient croisées. Celles qui ne touchaient pas le parquet tremblaient. La semelle du soulier était neuve, à peine blanchie au milieu.
« Mon brave, je vous ai fait venir parce que je m'intéresse aux pauvres. »
Je changeai de position. Aucun bruit de ressort ne sortit du fauteuil. « Oui, je m'intéresse aux pauvres, aux vrais pauvres, bien entendu. Je déteste les gens qui exploitent la bonté d'autrui. » S'appuyant au bureau, il se leva comme quelqu'un qui a mal aux genoux, puis il arpenta la pièce, les mains derrière le dos, en faisant claquer deux doigts, à la manière d'une danseuse espagnole. Ma tête se trouvait à la hauteur de son ventre. Gêné, je levai les yeux pour le regarder en face. « J'aime les pauvres, mon brave. Ils sont malheureux. Chaque fois que j'ai l'occasion de leur venir en aide, je le fais. Vous, vous me paraissez être dans une situation intéressante.
« Oh, monsieur !»
Sur la cheminée, trois chevaux dorés buvaient une glace dans un abreuvoir doré. « Votre délicatesse m'a beaucoup plu.
« Oh, monsieur !»
Je me réjouissais de la tournure que prenait la conversation lorsque la porte s'ouvrit. Une jeune fille apparut et, m'apercevant, hésita à entrer. Elle était blonde et belle, comme ces femmes qui, sur les cartes postales anglaises, embrassent le museau d'un cheval.
« Entre donc, Jeanne !»
Je me levai assez difficilement. « Restez assis, restez assis !» me dit l'industriel. Cette injonction m'humilia. Monsieur Lacaze m'avait commandé de rester assis pour me faire comprendre que je n'avais rien à voir avec les siens. Il s'installa à son bureau et écrivit quelque chose. La jeune fille attendait, et de temps en temps elle me regardait à la dérobée. Nos yeux se rencontrèrent. Aussitôt elle détourna la tête. Je sentis que j'étais, pour elle, un être d'un autre monde. Elle m'épiait afin de savoir comment j'étais fait, de la même manière qu'elle eût épié une femme galante ou un assassin. Enfin, elle se retira, un morceau de papier à la main. Elle s'arrangea, en fermant la porte, pour me voir.
« Avez-vous été soldat ?»«
Oui, monsieur. » Je montrai ma main mutilée.
« Ah, vous avez été blessé.
À la guerre, j'espère. »«
Oui. » »«
Vous touchez donc une pension ?»
Oui, monsieur, 300 francs chaque trimestre.
Invalidité 50% alors.
Oui. Et vous travaillez ?
Non, monsieur.
J'ajoutai aussitôt, mais je cherche.
Votre cas est intéressant. Je m'occuperai de vous. En attendant, tenez.
Monsieur Lacaze sortit son portefeuille. J'eus un frisson qui me donna l'illusion que la peau de mon crâne se plissait.
Combien allait-il me donner ? 1000 francs, peut-être.
Il compta des billets épinglés comme on feuillette un livre.
Je suivais chacun de ses gestes.
Il ôta l'épingle et me tendit un billet de 100 francs, non sans l'avoir froissé, pour s'assurer qu'il était seul.
Je le pris.
J'étais gêné de le tenir à la main et je n'osais le mettre tout de suite dans ma poche.
« Allons, cachez-le, et surtout ne le perdez pas. Vous achèterez un complet d'occasion.
Le vôtre est trop grand. »«
Bien, monsieur.
Et vous viendrez me voir dans votre nouvel habit. »
Pendant que monsieur Lacaze parlait, je pensais que je n'aurais pas dû accepter le billet si vite. Mon attitude ne concordait plus avec celle de la gare.
« Venez me voir. » L'industriel consulta un agenda, entraînant sur le mot « voir ».«
Venez me voir. Après-demain, à la même heure, je vous attendrai. »
Il inscrivit quelque chose, puis il me demanda
« Mais au fait, comment vous appelez-vous »«
Bâton Victor. »
Après avoir noté mon nom et mon adresse, il sonna.
La bonne me reconduisit.
« A-t-il été gentil ? » questionna-t-elle.
« Oui. »
« Vous a-t-il dit de revenir ? »
« Oui. »
« C'est que votre cas est intéressant. »